Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazaghi, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire se dégrade en délai et même au moment où on parle avec vous, il y a un pic de violence dans cette localité. Comment est-ce que le gouvernement réagit à cette situation?
Oui, vous avez raison de parler de la situation sécuritaire dans la ville de Ndélé. En fait, au moment où nous parlons, sauf s'il y a de nouveaux éléments depuis ce matin, selon mes informations, la situation avait commencé à se calmer depuis hier. Mais elle est extrêmement tendue encore, bien sûr. Le gouvernement et la ministre ont envoyé, n'est-ce pas, une mission conjointe à Ndélé. Depuis hier, avec un de mes collègues membres du gouvernement, la MINUSCA, en vue d'avoir des entretiens politiques, quand même, avec les responsables de ces groupes qui ont signé quand même un accord. Et donc, la situation est celle-là, et malheureusement, elle a touché beaucoup de personnes. Nous n'avons pas de bilan détaillé pour le moment.
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ceux qui alimentent le conflit, Ndélé, Bouya, Birao, siège au gouvernement, à la présidence et à la primature, sauf que les pouvoirs en place n'arrivent pas à établir leurs responsabilités pour essayer d'alléger la souffrance du peuple dans cette partie de la République si haut citée.
Bon, il y a deux choses que vous avez posé une question et quelques mêmes éléments de réponse. D'abord, il faut établir, n'est-ce pas, la responsabilité directe avant que d'agir. À tout point de vue d'ailleurs, hein, aussi bien des points de vue de sanctions directes, ciblées et individuelles. Je crois que ça c'est la décision des partenaires lors du dernier conseil, comité exécutif de suivi, que dans ces différents cas, pas forcément celui-là, eh bien il faut des sanctions directes, ciblées, individuelles, en plus que d'autres sanctions politiques qui pourrait comprendre la participation au gouvernement et d'autres. Donc oui, il faut que nous établissions tout cela de manière claire et directe.
Mais ça fait déjà un an que ça dure, et même le 6 février, le chef de l'État a tapé du poing sur la table pour dire qu'il faut que les sanctions entrent quand même dans la danse. Malheureusement, un mois aujourd'hui, après le beau discours du chef de l'État, les Centrafricains ne voient pas d'effet.
Non, vous ne le savez pas. Quand on prépare des sanctions sur une personne ou un groupe de personnes, on ne le crie pas sur les toits. Donc vous ne pouvez pas savoir si rien ne se fait. En tout cas, des choses qui se font aussi facilement que vous le croyez.
L'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ludovic Ngaïfé, veut du gouvernement une retraite anticipée, mais à la clé, il y a des points qui justifient son départ que lui-même il a mis sur la toile. Comment est-ce que le gouvernement réagit à ça?
Bon, d'abord, si je me positionne du point de vue légaliste, du point de vue institutionnel, je pense qu'un officier général, un officier supérieur, est obligé à la réserve. Il est censé, ce monsieur, avoir une obligation de... Et donc, il ne peut pas se permettre de dire ce qu'il dit ici et là. S'il veut entrer en politique, alors qu'il prenne les dispositions qu'il faut pour ne plus être dans l'armée, et entrer en politique et parler librement et faire les critiques qu'il faut. C'est la deuxième chose qu'il faut dire par rapport à cela. Je pense qu'il fait partie d'une structuration militaire, c'est vrai, le président de la République est le chef suprême des armées, mais il appartient à un département et un ministère, et je pense que ce ministère-là prendra les mesures qu'il faut. Maintenant, s'il faut non pas aller dans la polémique avec ni ce brave fils du pays, ni avec quiconque, mais plutôt peut-être dans une réponse politique. Je dirais que beaucoup de choses que ce brave général, dont il accuse le pays, ou en tout cas la gouvernance actuelle, eh bien, ce sont des choses qu'il a peut-être laissé faire pendant une autre gouvernance et quand il était le patron de l'armée. Sauf si les Centrafricains ont la mémoire courte, mais il me semble que ce monsieur était en charge quand ce pays-là a été pris d'assaut.
Il me semble que
beaucoup, cette armée qui est tombé en désuétude, l'est tombé quand lui et d'autres étaient en charge.
Vous conviendrez aussi avec moi que l'armée est aux ordres de la politique et lui, en tant que chef d'état-major des armées, il n'a pas de façon personnelle à prendre des initiatives. Il reçoit toujours des ordres de la politique, sauf qu'il attend en vain et il a pris sa responsabilité.
La première chose, ce que vous dites n'est pas cohérent, ni lui ni vous. Si vous et lui étiez cohérents, il aurait dû protester à ce moment-là déjà. Puisque ce problème-là, je répète, s'était passé il y a déjà plusieurs années quand notre pays a été envahi par des hordes qui entrait dans ce pays. À ce moment-là, il fallait prendre ce courage-là. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris? Ça, c'est la première. Deuxièmement, si réellement on est ce que l'on dit prétend être ou ce que l'on est, ce que l'on annonce, on prend son courage, on démissionne de l'armée et on combat cela. On ne reste pas. Un bon militaire, c'est celui qui refuse des ordres iniques, des ordres qui ne vont pas dans le sens de ce qu'un militaire, un officier supérieur peut accepter. Je pense que cela aurait pu être fait à ces moments-là, à ces époques dont nous parlons là, et où il était en charge de l'armée et où il y avait, dit-on, des ordres iniques. Pour ce qui concerne le gouvernement, vous connaissez les efforts qui sont faits par le gouvernement pour restaurer notre armée, de les former, de les équiper, de les organiser pour faire une armée qui soit une armée citoyenne. Ce qu'elle n'était plus devenue depuis ce temps dont je parle et depuis cette époque dont certains de ceux qui parlent aujourd'hui étaient en charge. C'est-à-dire que c'était devenu une armée à la solde d'une personne, d'un groupement de personnes. C'était une armée qui n'était plus maintenue en tant qu'une armée, et etc. Mais nous, avec le président de la République, ce qu'il fait, c'est de faire en sorte de redonner une âme à cette armée, de lui redonner son unité, de l'équiper à nouveau, de faire en sorte qu'elle soit républicaine, ce qu'elle n'est plus depuis cette époque-là, où cela aurait pu être dénoncé par toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui.
Vous semblez reprocher au général Ludovic Greffier un problème, une appréciation de timing, alors que le président de la République, de son côté, avait gagné les élections pour changer la vie des Centrafricains. Sauf que lui, il a vu que les choses n'ont pas changé et il a pris aussi la décision militaire de prendre cette distance de ce qui se passe actuellement.
Je reproche à quiconque n'est pas cohérent de l'être. C'est ça mon reproche. C'est un manque de cohérence. Parce que je pense que la droiture n'a pas de timing. Si on est droit, on aurait dû l'être il y a 6 ans, 8 ans, comme on doit l'être aujourd'hui. Mais ça ne peut pas être flexible. Et on ne peut pas choisir le juste moment selon soi pour être droit. C'est ce que je dis.
La situation sociale, politique, économique aussi, dans le monde rural centrafricain, interpelle aussi le cardinal Dieudonné Zapalainga, qui aussi, lors de la messe de carême, avait interpellé les autorités. Vous, au niveau du gouvernement, comment vous avez déjà accueilli la sortie du cardinal Dieudonné Zapalainga sur la situation de l'État centrafricain aujourd'hui?
Bon, moi, je ne veux pas parler de cette sortie, puisque vous l'appelez ainsi, spécifiquement. Je veux simplement dire que la République centrafricaine vit les affres de ce que les Centrafricains ont créé. On ne peut pas vivre 30 années de situation conflictuelle sans qu'il n'y en ait des effets socio-économiques. On ne peut pas avoir participé ou laissé se détériorer tout le tissu économique d'un pays sans que, tôt ou tard, on ne puisse en payer les pots cassés. Maintenant, le président de la République, le gouvernement, lui, il est en charge. Et quand il est en charge, lui, il fait en sorte, malgré toutes ces contraintes-là, de restaurer et de redresser le pays. Alors, je veux dire à nouveau ce que j'ai déjà répété à plusieurs reprises. Ce langage facile là, de dire les financements des bailleurs de fonds sont détournés par le gouvernement, volés. Parce que c'est parfois le terme trivial et même insultant, qui ne sied pas de haute personnalité, qui est le terme qui est évoqué. Mais je répète à nouveau, est-ce que réellement le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, ces institutions qui sont jalouses de leur financement, de leurs fonds, de leurs projets, pourraient continuer d'accompagner ce gouvernement si réellement il détournait tous ces fonds et cet argent? Croyez-vous qu'ils n'ont pas d'organismes de monitoring pour suivre que chaque financement, chaque fonds qui est remis à la disposition du gouvernement centrafricain n'est pas arrivé à terme et que malgré cela, ils continueraient de le financer? Et de surcroît, de dire eux-mêmes, pas nous, que nous sommes un de ceux qui gère le mieux les finances publiques dans toute la région de l'Afrique centrale, je ne crois pas.
Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazaki, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.